Bonsoir. Le programme du Centre Ergonia vous annonce que ce soir, dans ses nouveaux locaux, je dois vous parler de l'ère du Verseau. Qui pisait, cette annonce est faite avec mon consentement, et je me trouve prise au piège, au pire des pièges, c'est-à-dire celui du dilemme ou du cercle infernal. En effet, l'idée que je vais vous parler de l'ère du Verseau semble bien impliquer quelque chose qui n'est pas du tout conforme, je suppose, à l'idée que vous avez de l'ère du Verseau, et qui ne correspond d'ailleurs pas du tout à l'idée que moi-même je me fais de l'ère du Verseau, et en particulier de l'ère du Verseau peut-être anticipée, telle qu'elle peut être vécue lors d'une séance où l'on se propose de parler de ce sujet. En effet, on dit fréquemment que nous arrivons à une ère où précisément il ne s'agira plus de parler, mais il s'agira davantage de ressentir, et puis surtout à une ère où il ne s'agira plus de tenir toujours le discours du sujet supposé savoir, comme dit Lacan, de celui qui joue au maître, ou qui même prétend être un maître sans se rendre compte qu'il y joue, ce qui est encore beaucoup plus grave. Je crois que le seul moyen de nous en sortir, c'est d'abord d'affirmer qu'il faudra toujours parler, et qu'il faudra toujours penser. Et que ère du Verseau ou pas, et peut-être davantage encore à l'ère du Verseau qu'avant, celui qui vit dans la confusion ne peut s'empêcher de faire des injustices, comme disait l'abbé de Rancé. L'abbé de Rancé qui avait une bien jolie phrase à cet égard. Celui qui vit dans la confusion ne peut s'empêcher de faire des injustices. L'ère du Verseau, c'est celle de la justice. Ça doit être aussi celle d'une pensée droite. Et puis, si l'ère du Verseau a une doctrine, c'est certainement une doctrine, disons tout simplement d'essence platonicienne, c'est-à-dire une doctrine où les idées ont une valeur, où nos idées individuelles reflètent, dans une certaine mesure, il faut s'efforcer que cette mesure soit la plus grande possible, les idées éternelles, les idées de Dieu. Par conséquent, il faudra toujours penser, essayer de bien penser, et parler, essayer de toujours bien penser. Sinon, il faudra surtout essayer de parler ensemble. Essayer de converser, essayer de commercer. Je voudrais donc vous demander si vous en êtes d'accord. Ce n'est qu'une interrogation que je vous pose. Ce n'est pas un interrogatoire auquel je vous soumets, justement. Ce serait tout à fait contraire à l'esprit. Je vous propose donc de dire, ceux d'entre vous qui le voudront bien, ce à quoi vous fait penser cette idée de l'ère du Verseau et ce que vous attendez en venant ici ce soir. Ce que vous attendez qu'on vous apporte comme information ou comme communication, de quelque ordre qu'elle soit, et ce que vous-même vous souhaitez apporter. Et puis après, eh bien, on essaiera de dégager quelques grandes idées, si vous voulez bien, et j'essaierai de parler, et nous essaierons de converser grâce à vos réponses. Mais d'abord, si vous voulez bien, j'aimerais savoir ce que vous attendez d'une soirée où l'on va réfléchir à l'ère du Verseau et parler de l'ère du Verseau. Je dis « on » exprès pour ne pas dire « je ». On va essayer.
Moi, je voudrais bien comprendre qu'est-ce que la précession des équinoxes.
En effet, la notion d'ère du Verseau est liée directement à celle de précession des équinoxes. On va essayer aussi.
Aucune idée précise. Je savais qu'il allait y avoir une rupture, que l'ère du Poisson allait cesser, qu'on allait rentrer dans l'ère du Verseau.
Y a-t-il un moment précis, astronomiquement parlant, où l'on entre dans l'ère du Verseau et l'ère des poissons précédente s'arrête? Et que se passe-t-il entre deux aires? Comment se font les influences et comment on passe d'une aire progressivement à une autre?
Thank you.
des choses précises, de, en particulier un petit peu de tout ce que dit tout le monde, enfin, connaître des choses, quoi.
Bon, alors on va essayer.
Le rabbi, l'air du vers.
Alors la première notion, si vous voulez, c'est la notion d'air. La deuxième, bien sûr, c'est celle de verso. Une troisième, ça paraît très simple, mais je crois qu'il faut essayer d'avoir des idées claires, c'est justement l'air du verso. Et puis, si vous le voulez bien, je voudrais tout de suite annoncer une quatrième notion, celle sur laquelle j'aimerais terminer, et que je désignerais peut-être comme l'air du verso, entre guillemets. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Cela signifie que même si l'on n'accepte pas entièrement les implications astronomiques ou symboliques de l'expression courante air du verso, il y a peut-être, il y a sûrement, je vous le dis tout de suite à mon avis, il y a une attente que l'on peut désigner comme ayant pour objet l'air du verso d'une manière, si vous voulez, symbolique au deuxième degré, c'est-à-dire ne correspondant pas nécessairement à l'air du verso au sens astronomique que l'expression peut avoir, et c'est pourquoi j'ai mis ici des guillemets, j'ai presque envie de souligner ces guillemets. D'abord la notion d'air. Là, on ne va pas avoir le temps de s'attarder beaucoup. Ce que je voudrais vous demander, c'est de réfléchir, peut-être un petit peu maintenant, et puis par la suite aussi, sur l'idée qui est déjà engagée par ce mot « air ». Ce mot « air » signifie que l'histoire, la suite des événements qui constituent l'histoire de l'humanité, le cours de l'humanité, n'est pas un désordre complet, n'est pas un pur chaos, mais qu'il y a une certaine signification, qu'il y a une certaine structure de cette histoire. Et je vous dis tout de suite, puisque nous allons parler d'astronomie et d'astrologie, que le propre de l'astrologie, me semble-t-il, c'est de dégager l'idée de structure, l'idée de destin, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle mondiale. Donc cette notion d'air nous indique déjà que l'histoire a une certaine structure, l'histoire de l'humanité a une certaine structure, et qu'on peut déterminer de grandes époques, on peut déterminer un sens au double, à double acception du terme, c'est-à-dire à la fois une orientation et une signification. Parmi les doctrines qui affirment que l'histoire a un sens, et qu'il y a des airs, c'est-à-dire que le temps et comme dit Eliade, un temps qualifié, que ce n'est pas un temps profane, c'est un temps sacré. Eh bien, il y a cette doctrine de la grande année. Je vous dis tout de suite que si je mentionne la grande année, c'est parce que le problème se posera tout à l'heure de savoir si l'ère du Verseau s'inscrit dans une théorie qui équivaut à celle de la grande année ou qui n'équivaut pas à celle de la grande année. Donc, je vous définis d'abord la grande année telle que l'Antiquité classique, pour rester dans notre univers culturel, l'a connue et l'a décrite. Vous verrez qu'il n'y a aucune allusion, en tout cas, aucune mention expresse de l'ère du Verseau, ni même de la précession des équinoxes. La grande année, c'est la période, sous sa forme achevée, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec une base astronomique. Car chez Héraclite, par exemple, on trouve une notion que l'on peut dire de grande année, c'est-à-dire une alternance des deux puissances qui, comme chez Empédocle d'ailleurs, sont à l'œuvre dans le monde, et on trouve déjà un chiffre que Héraclite a calculé par référence à la vie humaine. Mais sous sa forme achevée, je ne vais pas vous faire là un cours d'érudition, si le sujet vous intéresse, je pourrais vous indiquer où vous trouverez des références, où vous trouverez des chiffres, si vous voulez. Ce que je vous demanderai de retenir, c'est que l'idée de grande année, sous sa forme achevée, est la suivante. c'est la période nécessaire pour que se reproduise une même configuration astrale. C'est-à-dire pour que les planètes se retrouvent. Lesquelles planètes ? Alors, bien sûr, quand je dis planète, j'entends cette planète dont le Soleil et la Lune, qui en astronomie ancienne ou en astrologie traditionnelle, sont considérées comme des planètes. Donc la grande année, c'est la période nécessaire pour qu'une même configuration se reproduise, pour que les planètes se retrouvent les unes par rapport aux autres dans la même présentent les mêmes distances angulaires les unes par rapport aux autres, les planètes seulement sur le fond des étoiles, c'est-à-dire le ciel des fixes, comme on disait en astronomie ancienne aussi, qui sont supposées immobiles. Donc la grande année, c'est très précisément ce temps. Et cette grande année comporte bien sûr un été, elle comporte un hiver, et il y a dans la grande année deux moments particulièrement importants. L'un, c'est celui du cataclysme au sens exact, c'est-à-dire du grand déluge, et l'autre, c'est celui de la conflagration, c'est-à-dire de la destruction par le feu. C'est lorsque la configuration des planètes se reproduit en cancer, que les anciens considéraient qu'il y avait l'inondation, le déluge universel, et c'est lorsque ces planètes se retrouvaient dans le signe du Capricorne, je mentionne déjà deux noms de signes du zodiaque, nous allons y revenir tout à l'heure, c'est donc lorsque la configuration se reproduisait dans le signe du Capricorne que devait avoir lieu cette conflagration. Je vous lisais la forme achevée, je vous disais aussi que je ne voulais pas vous faire un exposé d'érudition, je précise quand même que cette forme achevée, c'est le stoïcisme qu'il a donné et qu'il a présenté de la manière la plus satisfaisante. On trouve bien entendu chez Platon également un certain nombre de renseignements à ce sujet, comme chez d'autres auteurs, et chez Platon on trouve également des chiffres, je ne vous les donnerai pas tous, mais il y en a au moins un ou deux que je vous indiquerai tout à l'heure. Donc, si vous voulez, retenez de cette première partie, ce premier chapitre, R, dans R du Verseau, d'abord R, c'est-à-dire temps qualifié, c'est-à-dire histoire structurée, et très précisément sous la forme fondamentale, la forme la plus répandue dans toute l'Antiquité, de la grande année. La grande année, période nécessaire pour que se reproduise une même configuration astrale. Passons maintenant, si vous voulez, au Verseau. Qu'est-ce que c'est que le Verseau ? Alors, si vous permettez, est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'on appelle le Verseau ?
Le porteur d'eau ?
Oui, mais on part de l'astronomie, si vous voulez bien. Vous avez raison, on va venir tout à l'heure au symbolisme, on peut partir de l'astronomie. Est-ce que quelqu'un a une idée précise ? Bon, alors là, permettez-moi de le dire très simplement. Si l'on veut faire du symbolisme sur des données astronomiques, si l'on veut faire de l'astrologie d'une manière plus générale, il faut connaître un minimum d'astronomie. Ça, c'est absolument indispensable, sinon on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que c'est qu'un thème astrologique, on ne comprend pas ce que c'est que des maisons, on ne comprend pas non plus ce que c'est que des signes, et c'est des signes d'ailleurs dont nous allons parler, les maisons c'est une autre affaire, mais on ne comprend pas non plus ce que peut être l'air du Verseau, puisque l'air du Verseau, si vous mettez des guillemets à air du Verseau, bien sûr c'est une autre affaire. Parce que vous le prenez dans un symbolisme au second degré. Mais si vous ne mettez pas de guillemets, à ce moment-là, c'est une référence directe au réel astronomique, et donc il faut connaître un minimum d'astronomie. Alors, essayez de vous donner quelques notions tout à fait élémentaires. D'abord, nous allons bien sûr être obligés de sauter à plusieurs reprises d'un point de vue géocentrique, c'est-à-dire du point de vue du réel astronomique comme il se présente à l'observateur censé être au centre du système, à un point de vue héliocentrique, c'est-à-dire comme le système se présente en considérant que, non pas la Terre, mais le Soleil est en son centre. Est-ce que, permettez-moi de vous interroger quand même, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'écliptique ? L'écliptique. L'écliptique, c'est le cercle que paraît emprunter, puisque nous passons là à un point de vue géocentrique, c'est le cercle que paraît emprunter la route du Soleil autour de la Terre. L'écliptique n'est pas l'équateur. Vous savez tous ce que c'est que l'équateur terrestre. L'équateur céleste, c'est tout simplement la projection de l'équateur terrestre. Il se trouve que l'écliptique est incliné sur l'équateur céleste, projection de l'équateur terrestre. Donc l'écliptique nous permet de définir le zodiaque. Savez-vous ce que c'est que le zodiaque? Alors le zodiaque, c'est tout simplement une bande de 8,5 degrés approximativement au-dessus et au-dessous de l'écliptique. C'est-à-dire que toutes les planètes, y compris le Soleil, donc qui nous a permis de définir l'écliptique, toutes les planètes paraissent se déplacer autour de la Terre dans une bande qui est longue ou large ou haute, plus exactement, de 8,5 degrés au-dessus de l'écliptique, 8,5 degrés en dessous. Bien, vous voyez ce que c'est que l'écliptique, vous voyez ce que c'est que le zodiaque. Ce zodiaque, on peut en définir les différents stades par les constellations qui se trouvent en quelque sorte en arrière-plan. Nous sommes sur la Terre qui est au centre et nous voyons les planètes se déplacer donc dans certains secteurs, certaines bandes, si vous voulez. Certains rubans célestes, et on peut dire qu'en arrière-plan se trouvent des constellations. Ces constellations ont un certain nombre d'étoiles que l'on a groupées précisément en constellations de différentes tailles, de différentes étoiles, et auxquelles on a donné des noms. Bien, j'en reviendrai, si vous voulez, tout à l'heure sur cette question de noms. Ces noms, bien, vous les connaissez. Ces noms, ce sont ceux que l'on appelle les noms des signes du zodiaque. Autrement dit, les constellations ont le même nom que les signes du zodiaque. Et l'on peut supposer que les signes du zodiaque coïncident avec les constellations du même nom. On peut le supposer, et c'est vrai à certaines périodes. C'était vrai à une certaine époque, à l'époque où précisément le zodiaque de 12 signes a été déterminé. Qu'est-ce que c'est alors? Le zodiaque de 12 signes, c'est une division en 12 parties de cette bande que représente le zodiaque, 12 parties qui sont évidemment longues de 30 degrés chacune. Mais il se trouve que c'est rectangles, ces 12 rectangles qui constituent les signes du zodiaque, ne correspondent plus avec les constellations avec lesquelles ces rectangles coïncidaient à une époque déterminée. Pourquoi? Eh bien, précisément en raison de la précession des équinoxes. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est. Est-ce que vous voyez à peu près quel est le problème? De sorte que l'on va avoir, dit-on couramment, deux zodiaques. Un zodiaque sidéral, c'est-à-dire le zodiaque des étoiles, le zodiaque des constellations, si vous voulez, sidéral, c'est les étoiles, groupées en constellations, et puis un zodiaque que l'on pourra appeler tropique, ou un zodiaque de signe, qui sera, lui, également, aura également des divisions, qui aura 12 divisions qui pourront correspondre, quant à leur nom, avec les 12 constellations du zodiaque sidéral, mais il y aura un décalage entre le signe portant un nom et la constellation portant le même nom que le signe. Est-ce que vous voyez? Bon. On va vous dire tout de suite qu'en français, nous ne sommes pas très favorisés parce que nous utilisons le même mot. Je vous ai expliqué, je crois que vous voyez pourquoi. Nous utilisons le même mot pour désigner le signe et pour désigner la constellation. On s'explique pourquoi, mais étant donné ce décalage, c'est évidemment fâcheux, car on est chaque fois obligé de préciser, lorsque l'on mentionne par exemple le Verseau, ou les Poissons, ou le Cancer, ou le Capricorne, on est bien obligé de dire si l'on parle de la constellation ou si l'on parle du signe. Dans certaines langues, à commencer par l'anglais, on a la très bonne habitude d'utiliser le nom latin lorsqu'on parle du signe et d'utiliser le nom de langue vulgaire, anglais par exemple, lorsqu'on parle de la constellation. Ainsi, on dit en anglais Aquarius pour le Verseau et on garde ce nom latin pour désigner le signe, ce qui est incontestablement lever une équivoque possible, une cause possible d'équivoque. J'ai dit que ce décalage était dû à la précession des équinoxes. Et vous avez dit aussi que l'écliptique était inclinée par rapport à l'équateur céleste. Vous entendez bien qu'il y a un point, il y en a même deux, mais il y en a un seul qui va nous intéresser maintenant, où l'écliptique coupe l'équateur céleste. L'un de ces deux points, celui qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Vernal voulant dire du printemps. Le point vernal, c'est le lieu, donc c'est astronomiquement le point, l'un des deux points où l'écliptique coupe l'équateur, et c'est le lieu où le soleil se lève. Bon, vous entendez bien que je n'ajouterai pas chaque fois « paraît se lever » ou que le mouvement apparent du soleil, c'est bien évident. C'est donc le point, ce point vernal, où le soleil se lève le jour du printemps, le premier jour du printemps, c'est-à-dire, selon les années, le 20 ou le 21 mars. En raison de la précession des équinoxes et de ce décalage des signes par rapport aux constellations, ou des constellations par rapport aux signes, l'équinoxe de printemps, ou plus exactement le point vernal, paraît se déplacer chaque année, et le soleil paraît ainsi se lever le premier jour du printemps, c'est-à-dire le 20 ou le 21 mars de chaque année, en un point différent du ciel. Pourquoi ? Alors là, nous allons maintenant parler de la Terre. Vous savez tous qu'il y a deux mouvements principaux de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil et la Terre tourne sur elle-même. Il y a un troisième mouvement qui est extrêmement important pour nous, puisque c'est celui qui produit le phénomène dit de la précession des équinoxes. Ce troisième mouvement est dû au fait que la Terre n'est pas parfaitement sphérique. La Terre possède, à l'équateur, un bourrelet. Si la Terre était immobile sur elle-même, l'action du Soleil attirerait la Terre, et la Terre viendrait s'écraser dans le Soleil. Mais la combinaison du mouvement de rotation de la Terre avec l'attraction du Soleil sur ce bourrelet transforme ce mouvement en un mouvement gyroscopique de l'axe de rotation de la Terre. Est-ce que vous suivez ? Vous voyez, monsieur ? Bon. Je vous ai parlé de cette action du Soleil sur ce bourrelet, qui donc va transformer le mouvement en un mouvement gyroscopique de l'axe de rotation, mais il y a aussi une action de la Lune. L'action de la Lune, que l'on appelle la nutation, va faire que ce cône, car le mouvement gyroscopique va s'inscrire comme un cône, n'est-ce pas ? L'axe de la Terre va décrire un cône. Et il se trouve que l'action de la Lune se combinant va donner à cette ligne du cône une ondulation. Nous aurons donc un mouvement de cône et une ondulation. Il y a aussi une action des planètes, mais c'est une action qui est véritablement à la limite du mesurable. Donc, nous n'avons pas besoin d'en parler. Je demande seulement donc de bien retenir cette action du Soleil qui produit le mouvement de cône de l'axe de rotation de la Terre. Cette action de la Lune qui fait osciller, c'est à peu près le sens du mot nutation, et qui entraîne l'ondulation de la base de ce cône, et le tout, eh bien, produit précisément le déplacement du point vernal, le déplacement apparent du point vernal. J'ai dit qu'on passait toujours du géocentrisme à l'héliocentrisme, et inversement, le déplacement apparent du point vernal, et aussi, vous le devinez, bien sûr, c'est corrélatif, c'est même corollaire, si vous voulez, le déplacement de l'étoile polaire. Bien entendu, l'axe de rotation de la Terre, se mouvant de la manière que je vous ai dite, l'étoile polaire, l'étoile qui sera désignée par le prolongement, si vous voulez, de cet axe de rotation, cette étoile ne sera pas toujours la même et l'étoile polaire se situera à différents endroits du ciel et parcourra, pour ainsi dire, si vous voulez, l'emplacement de l'étoile polaire parcourra, pour ainsi dire, un cercle qui correspondra à ce mouvement de cône de l'axe de rotation de la Terre. Est-ce que vous voyez à peu près? Oui. Bon, j'aurais, avant de continuer, bon, c'est à peu près tout pour l'astronomie. On va pas en dire beaucoup plus. J'ai essayé de le dire le plus simplement possible, sans chiffres. Est-ce que vous voyez à peu près? Bon, c'est pas la peine d'entrer dans trop de détails, si vous voulez, mais je crois que c'est tout de même utile de savoir ce que ça signifie précession des équinoxes. Bon, précession des équinoxes, vous voyez bien sûr ce que ça veut dire. Oui, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais vous l'avez sûrement suppléé. Lorsque j'ai parlé de point vernal, lorsque j'ai parlé de printemps, c'est l'un des deux équinoxes, l'autre étant celui de l'automne, c'est-à-dire le moment où le jour et la nuit sont égaux. Enfin, bien sûr. Donc, précession des équinoxes, si vous voulez, je ne vous parle pas de l'équinoxe d'automne, on pourrait répéter exactement la même explication. Je vous ai parlé du printemps. Donc, précession des équinoxes, je vous ai parlé en fait de la précession de l'équinoxe de printemps. Alors, précession, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire précisément ce mouvement que paraît effectuer le point vernal, lequel mouvement est causé par ce phénomène de déplacement de l'axe de rotation de la Terre selon un mouvement de cône et une ondulation qui vient s'y superposer. Vous voyez à peu près? Oui? Bon. Combien de temps dure ce tour de l'axe de rotation de la Terre? C'est-à-dire, combien de temps faut-il pour que le point vernal paraisse parcourir, si vous voulez, la totalité du zodiaque? Eh bien, il faut à peu près 26 000 ans. Il faut à peu près 26 000 ans. Pendant ces 26 000 ans, le point vernal fera le tour du zodiaque, c'est-à-dire se situera au début, puis au milieu, puis à la fin de chacun des secteurs que l'on désigne par des noms de constellations et qui correspondent également au signe du zodiaque. Vous voyez à peu près ce que c'est que le zodiaque et ce que c'est que la précession des équinoxes. Bien. Alors, est-ce que vous connaissez les noms des signes du zodiaque ou des signes des constellations? Bon, est-ce que quelqu'un est capable de les écrire?
Les écrire?
Oui.
Les signes du zodiaque?
Oui. Oui, vous voulez bien? Merci.
Alors que je connais, je ne sais pas si c'est bon.
Ah. Bon, vous voulez que je vous les dise? Non. Attendez, vous pouvez peut-être. Oh, j'aurais dû être un peu petit. Avec la main?
Voilà.
Verso. attention, entre guillemets. Voilà, maintenant vous avez de la place. Alors, on commence avec celui que vous voulez.
Je ne sais pas si c'est le bon ordre.
Oui, on va peut-être ajouter. Donc, le point vernal, le point de l'équinoxe de printemps, va se déplacer de signe en signe durant cette période d'approximativement 26 ans. Elle va se déplacer dans un ordre qui est l'ordre inverse de celui-ci. Nous allons, si vous voulez, partir de l'époque actuelle, ou plutôt du début de notre ère. Au début de notre ère, le point vernal, c'est-à-dire le lever du soleil le 20 ou le 21 mars, s'effectuait dans le signe des poissons. Précédemment, il s'effectuait dans le signe du bélier, précédemment dans celui du taureau, etc. Et puis, après les poissons, il s'effectuera dans le signe du Verseau. Quelle est la durée de passage, ou de séjour plus exactement, du point vernal dans chaque signe? Vous le devinez tout de suite.
2000 ans.
Un peu plus. À peu près 26 000 divisé par 12. Bien. Nous arrivons maintenant, bien sûr, au moment crucial. Je vous ai parlé d'une manière un peu vague, je vous ai dit, au début de notre ère, le point vernal a commencé à se situer dans les poissons, puis avant, dans le bélier, puis je dis, après les poissons, il se situera dans le Verseau. Or, tout à l'heure, certains d'entre vous posaient la question, comment peut-on déterminer précisément la date où ce point vernal entre dans les poissons, la date où il entre dans le Verseau? Alors là, il faut vous répondre très simplement et très honnêtement, mais le réel astronomique ne permet pas le mensonge, il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen pour une raison extrêmement simple, c'est que les limites des constellations sont fixées d'une manière qui est arbitraire. Je dirais même que les noms des constellations sont donnés d'une manière qui est également tout à fait arbitraire. Car si vous regardez ces groupements d'étoiles qu'on appelle des constellations, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien qui oblige à les appeler de tel ou tel nom. Bien sûr, on arrive à situer toutes les étoiles dans une certaine image du symbole allégué, mais c'est facile. Je veux dire que pour le lion, par exemple, on arrivera à situer toutes les étoiles dites de la constellation du lion dans une figure de lion parce que on donnera à la queue du lion une certaine position qui permettra d'englober les étoiles. De même pour le Verseau, par exemple, même pour le Verseau, un vase, bien sûr, on arrivera à montrer que les étoiles de la constellation du Verseau correspondent à un vase, seulement on s'arrangera bien sûr pour que le vase ait une forme telle que toutes les étoiles y soient comprises et contribuent à le constituer. Mais où s'arrête une constellation? Où commence la constellation suivante? Où se termine la constellation précédente? Nous n'avons aucun moyen de le déterminer. Et il y a eu plusieurs définitions de ces limites qui ont été proposées dans l'Antiquité, plusieurs qui ont été proposées de nos jours. Il y en a une qui est maintenant officielle dans l'astronomie, mais c'est parfaitement arbitraire. De sorte que nous n'avons aucun moyen de déterminer d'une manière précise quand le soleil, pour prendre l'exemple topique, quand le soleil, le point vernal, si vous voulez, le soleil le 20 ou 21 mars, se situera dans le Verseau après s'être situé, comme peut-être maintenant, dans les poissons. De sorte qu'on a une marge extrêmement grande qui va... Il y a beaucoup d'hypothèses, je vais vous en donner deux si vous voulez, qui va du milieu du 19e siècle à peu près jusqu'au 21e siècle et parfois même assez loin dans le 21e siècle, sinon quelquefois davantage. Mais disons que les hypothèses les plus nombreuses et les plus raisonnables se situent dans un intervalle de temps qui est tout de même de près d'un siècle. Entre, disons, le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et tout cela à cause de l'impossibilité que nous avons de fixer les limites de constellation. Donc, nous ne pouvons pas dire, à un certain moment, si vraiment ce point vernal est dans le Verseau, ou s'il est encore dans les poissons, tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement où se terminent les poissons et où commence le Verseau. Bon, ce qui n'empêche pas, bien sûr, que l'on continuera toujours en astrologie de dire que le point vernal se situe dans le signe du bélier. Parce que les astrologues parlant de signes se réfèrent aux zodiaques tropiques dont je vous parlais, qui, lui, ne bougent pas. Et il y a décalage par rapport aux zodiaques des constellations, mais comme le zodiaque reste fixe, bien entendu, le soleil se lèvera toujours le 21 mars dans le bélier. Là, il n'y aura pas de changement. Bon, ça, c'est de l'astronomie jusqu'à présent. Et même ce que je disais du passage dans le Verseau, je ne dis pas dans l'air du Verseau, parce qu'à partir du moment où on dit air, n'est-ce pas, on se réfère à l'histoire humaine. Pour l'instant, je vous ai dit simplement, le point vernal s'est situé, et se situe peut-être encore dans les poissons, il s'était situé avant dans le bélier, il se situera dans le Verseau. Tout cela sans aucune référence encore à l'histoire de l'humanité. Bon, est-ce que... Jusqu'à présent, ça va? Bon, je vais faire une parenthèse, si vous permettez. Oui, vous en priez. Oui.
Est-ce que vous comprenez le principe de l'astrologie individuelle, par exemple? Vous allez faire une astrologie fondée sur le vivant ou sur le vivant?
Ah, c'est un beau et grand problème. Traditionnellement, l'astrologie européenne, occidentale, utilise le zodiaque fixe. Bien. Il y a eu un certain nombre de tentatives pour réhabiliter, en quelque sorte, le zodiaque des constellations, et encore récemment, un livre de Dorsan, qui s'est appelé « Retour au zodiaque des étoiles ». Le mot « retour » étant d'ailleurs, à mon sens, très critiquable, dans la mesure où on ne s'est jamais, dans la tradition européenne du moins, servi du zodiaque des étoiles. Il y a eu quelques propositions qui ont été faites. Bon, on peut dire que toute la tradition astrologique occidentale travaille sur le zodiaque fixe, sur le zodiaque tropique, sur le zodiaque des signes. Maintenant, l'astrologie hindoue a deux écoles. L'une qui travaille également sur le zodiaque tropique et l'autre qui travaille sur le zodiaque sidéral. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails, mais je voudrais tout de même souligner que l'on obtient des bons résultats avec les deux méthodes. Non pas avec le système européen s'appuyant sur un zodiaque des étoiles, si vous voulez, parce que notre système traditionnel ici n'est pas fondé sur le zodiaque des étoiles. Mais le système ou les systèmes hindous qui utilisent le zodiaque des étoiles donnent de bons résultats, et ces résultats ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Les méthodes sont complémentaires, les résultats sont souvent identiques, les méthodes sont complémentaires. Ce sont deux grilles que l'on utilise pour déchiffrer un texte qui est un même texte. Et on s'aperçoit de cette complémentarité parfaitement lorsqu'on voit justement cette coexistence des deux écoles en Inde. Mais notre système, ici, est composé en fonction du zodiaque tropique, du zodiaque des signes. J'ajoute un mot, si vous voulez bien, que c'est une objection que l'on fait très souvent contre l'astrologie. Bon, d'abord, je voudrais vous dire que, personnellement, je suis très agacé lorsque j'entends poser la question « Est-ce que vous croyez à l'astrologie ou est-ce que vous n'y croyez pas ?» Et il m'arrive souvent de citer la réponse que Newton faisait à Halley. Halley, qui est l'homme de la comète, enfin, certains d'entre vous connaissent peut-être entendu parler de la comète de Halley. Et Halley faisait remarquer à Newton qu'il était bien étonnant qu'un homme de sa qualité pût croire à l'astrologie. Et Newton répondit à Halley, Newton qui était astrologue, comme il était alchimiste d'ailleurs, et physicien bien sûr, mais enfin c'est encore la physique qui donnait le moins de temps. Et Newton répondit, la différence entre vous et moi, monsieur Halley, c'est que moi j'ai étudié la question et que vous ne l'avez pas étudiée. Je pense que c'est une excellente réponse à faire. On ne croit pas à l'astrologie, enfin, ça me paraît tout à fait absurde, enfin, c'est pas une question de foi. Il faut essayer. Et en général, d'ailleurs, ceux qui posent la question n'ont pas essayé. Moi, je les y invite. En général, je ne suis pas du tout cette invitation. Mais je pense que c'est la seule réponse que l'on peut faire. Personnellement, je me refuse tout à fait à répondre à des arguments du genre « Mais comment pouvez-vous croire que des astres à telle distance exerce une influence sur... » Alors, qu'on est là, il faudrait rebâtir le monde. Enfin, il faudrait dire que l'influence est à entendre d'une manière bien particulière et qui aurait beaucoup à discuter. Qu'il y a un fait où il n'y en a pas. Si l'on pratique l'astrologie, eh bien, je ne connais personne qui l'ait pratiqué sérieusement et qui ait nié ce qu'ils avaient constaté. Enfin, c'est pas possible. Alors, si vous voulez... Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'engager dans ce genre de discussion théorique avec des personnes qui, comme Halley en face de Newton, n'ont pas étudié la question. Mais, puisque nous parlons des zodiaques, il y a alors une objection théorique qui a été très souvent sortie, et Voltaire l'a popularisée. C'est l'objection. Bon, puisque les signes et les constellations ne coïncident plus, lorsque vous dites que quelqu'un est né sous le signe du bélier. Bon, alors, né sous le signe du bélier, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que au moment de la naissance, le soleil se trouvait dans le signe. Non, le signe du bélier. Et on vous dit, mais comme c'est plus le bélier maintenant, comment est-ce possible? Il devrait être... Bon, alors ça, c'est un argument. Pour une fois, je fais exception, si vous voulez. Je parle un peu de théorie, même. Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent un peu l'astrologie. C'est un argument qui ne vaut absolument rien, car les astrologues ont toujours su qu'il y avait deux zodiaques. Et les plus grands auteurs d'astrologie l'ont dit. Il se trouve simplement que, précisément, comme vous le disiez, madame, quelle est l'astrologie, quel est le zodiaque que l'astrologie occidentale utilise? Eh bien, c'est le zodiaque des signes, c'est le zodiaque tropique. Et ce qui compte, ce sont les signes, ce ne sont pas les constellations. Bon, les étoiles peuvent être, bien entendu, prises en considération, mais le zodiaque que l'on utilise est celui-là. Et on peut même se demander, mais ça nous entraînerait trop loin, moi, personnellement, je crois qu'on a le droit de se demander... Si les noms des constellations ne viennent pas des noms des signes, plutôt que les noms des signes de ceux des constellations. Moi, je serais très tenté de le croire. C'est d'ailleurs un peu pour vous engager dans cette direction que je vous faisais remarquer tout à l'heure qu'il n'y avait rien dans l'aspect des constellations qui obligea à leur donner le nom de telle ou telle image désignée par l'un de ces noms. Donc ça, je le pense. Mais de toute façon, les astrologues ont toujours été, sont parfaitement conscients. J'entends les astrologues travaillant depuis que l'on fait de l'astrologie génétique et sur un zodiaque, c'est-à-dire à une époque relativement récente. Hein. Ça, il faut pas non plus là se tromper. Et il faut essayer aussi de voir les faits et de penser droit sur des faits bien établis. L'astrologie telle que nous la connaissons est une invention de l'époque hellénistique. C'est une invention qui ne vient pas de Chaldée, qui ne vient pas de Babylone. Il y avait d'autres formes d'astrologie. Et d'ailleurs, l'astrologie aurait pu évoluer aussi d'une autre manière. Bon, mais il se trouve que la manière dont elle a évolué sous une forme très proche de celle que nous pratiquons actuellement vient d'une période de peu antérieure à notre ère. Je crois que c'est important, c'est une phrase.
Alors, il y a un problème là.
Oui.
Le problème souvent, c'est les effets de lune. Enfin, je sais pas.
Oui.
Il y a un problème là, sur les deux mérides.
Alors, les effets de mérides vous donnent la situation dans les signes. Oui.
Je pourrais
la pratiquer, que je trouvais, donc l'éphémérie que j'ai trouvée, donc l'éphémérie aussi. Bon, et c'est bon, je ne suis pas assez tiré d'astronomie. Non, non, ça. À repérer vous-même les... En Europe, ça ne se fait pratiquement pas, ou alors vous êtes obligé d'apporter les corrections. Il y a une correction à apporter. Vous pouvez utiliser les tables en apportant une correction. Bon, écoutez, ça, on en parlera, si vous voulez, tout à l'heure, parce que là, ça va nous engager peut-être dans une orientation un petit peu différente. Non, je voudrais revenir à cette affaire de l'ère du Verseau, parce que finalement, nous n'avons pas encore parlé de l'ère du Verseau. On a parlé un petit peu de l'air, un petit peu du Verseau, un petit peu plus. Alors, cette idée d'ère du Verseau. L'idée d'air du Verseau, eh bien, elle apparaît de manière relativement récente. Et c'est une chose qui surprend beaucoup. C'est une notion qui est extrêmement populaire maintenant, mais c'est une notion que je n'ai pas trouvée attestée avant le milieu du siècle dernier. Car à quoi répond l'air du Verseau? Eh bien, il s'agit de faire coïncider des airs, des époques de l'histoire de l'humanité avec, disons, des aires, des époques du cycle précessionnel. Plus exactement, avec les 12 divisions du cycle précessionnel. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que telle période, telle ère de l'humanité, pour parler d'une façon très très simple, correspond, encore une fois, approximativement, puisque je vous le disais, on ne peut pas fixer exactement la durée du séjour du point vernal dans une des 12 divisions, mais il se trouve que, approximativement, on a essayé de montrer la correspondance entre ces aires et ces périodes de l'histoire de l'humanité et ces stations du point vernal, c'est ce parcours du point vernal, n'est-ce pas, à l'intérieur d'une des 12 divisions, on a essayé de les faire coïncider. De faire coïncider, en quelque sorte, les divisions du cycle précessionnel avec des divisions de l'histoire de l'humanité. C'est une idée qui, chose évidemment très surprenante, n'a jamais été proposée, à ma connaissance, avant le milieu du XIXe siècle, et qui a été mentionné comme en passant par Flammarion, qui a été exposé un peu plus systématiquement par un astrologue anglais qui s'appelait Séfarial, et qui a surtout été lancé, peut-on dire, par Paul Lecour en 1930. Et c'est lui qui a vraiment lancé cette idée, cette notion de l'ère du Verseau. Comment les tenants de cette théorie la justifient-ils? Eh bien, alors là, nous arrivons au symbolisme, si vous voulez, de ces différentes aires. Ils font remarquer que les grands symboles correspondent au symbolisme religieux fondamental des aires correspondantes. C'est-à-dire que les poissons, pendant les poissons, correspondent au christianisme, correspondent au Christ, et c'est vrai. Et c'est vrai, bon, on cite souvent le signe de reconnaissance des premiers chrétiens, Ictus, le nom grec du poisson, étant un anagramme de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, n'est-ce pas ? Mais on pourrait dire aussi, on le dit pas assez, mais ce serait évidemment un argument de poids, que le symbolisme du poisson est extrêmement important dans la littérature patristique, et que le Christ est très souvent comparé à un poisson. Saint Augustin, par exemple, dit que le Christ est un gros poisson qui a sauvé les petits poissons. Enfin bon, c'est véritablement un thème fréquent. Il y a entre le symbolisme du poisson et le christianisme un lien qui donne une certaine consistance à cette hypothèse. De même, entre le bélier, retrouve en Égypte, bien sûr, avec Ram, le bélier tient un rôle important aussi dans la religion juive. On se trouve à une... Et puis le taureau, qui correspondrait effectivement à une ère précédente, à des religions du Proche-Orient, où le taureau est effectivement un symbole, enfin même le taureau animal, répond à un symbolisme très, très fréquent, et on a même pu dire que il y avait dans la destruction du veau d'or, sorte de taureau Apis, un signe que l'on passait pas à ce moment-là, de façon précise, mais du passage d'une ère à une autre, si vous voulez. Et effectivement, on peut trouver des rapprochements qui sont tout à fait intéressants et qui semblent confirmer cette idée d'une relation entre le cycle précessionnel et les airs dans l'histoire de l'humanité. Alors on peut, si vous voulez, supposer cette théorie exacte, et à ce moment-là, je crois qu'il y a une ou deux remarques qui s'imposent. La première, c'est que ne sachant pas exactement, je le répète une fois de plus, mais je crois qu'on ne le répétera jamais assez, quand on sort d'une aire, c'est-à-dire quand le point vernal lui-même sort d'une de ces 12 divisions pour entrer dans l'autre. Donc, il n'est jamais possible de savoir le moment exact où l'on entre dans une autre ère, si l'on suppose cette théorie.
Bien. Peut-être est-ce qu'on ressent ?
Alors, peut-être est-ce qu'on ressent, mais je pense qu'aussi, dans la perspective de cette théorie, il est tout à fait normal de supposer que le début d'une ère prolonge en quelque sorte l'ère précédente, que le passage n'est pas déterminable exactement en astronomie, je l'ai assez répété maintenant, mais le passage d'une ère correspondante ne serait pas non plus d'une parfaite césure, il n'y aurait pas une parfaite césure, si vous voulez, et on pourrait dire que les derniers temps de l'ère des poissons contiennent déjà une sorte d'anticipation, enfin sont déjà marqués par l'ère du Verseau qui vient, et que l'ère du Verseau qui commence est déjà encore marquée par l'ère des poissons qui continue. Si vous voulez, ça, je crois que c'est une idée qui serait très très importante à défendre dans ce cas-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grande année. Je reviens tout à fait au début. Jean-Pierre, jusqu'à quelle heure est-ce que... Pardon ? Ah bon. Je vous ai parlé tout à l'heure à propos des airs, d'une structure comprenant ces airs qui était particulièrement importante dans l'Antiquité, c'était la grande année. Alors, un problème qui se pose... Est-ce que le cycle précessionnel est identique à la grande année ou ne lui est-il pas identique ? Alors, c'est un problème que je soumets à votre réflexion. Si ça vous intéresse, on peut très bien en débattre un autre jour. Mais là, ça nous demanderait évidemment de prendre
en compte un certain nombre de données, de chiffres, si vous voulez, qui ont été proposés. Personnellement, je suis tout à fait convaincu que l'on peut faire coïncider les deux. J'ajoute qu'on peut le faire coïncider en prenant comme chiffres de grande année les chiffres qui nous sont fournis par l'Antiquité et qui ne sont pas nécessairement les chiffres que l'astronomie moderne pourrait nous fournir. De toute façon, je vous indique que j'ai eu l'occasion de demander à des informaticiens de faire le calcul et que si l'on veut déterminer la durée de la grande année, on ne peut le faire qu'en s'accordant une approximation de plus ou moins 5 degrés dans la reconstitution d'une configuration donnée comme initiale. Sinon, alors on arrive véritablement à des chiffres qui sont extrêmement élevés et qui, du point de vue qui nous intéresse, si vous voulez, n'ont pas grande signification. Mais je pense, et ça, si ça vous intéresse, on peut très bien un jour se revoir et l'étudier, mais il faut voir ça de près. De toute façon, je peux vous indiquer un petit ouvrage où la chose a été traitée, a commencé d'être traitée. Je pense que l'on peut faire coïncider ce cycle précessionnel et la grande année, et qu'on peut retrouver dans les chiffres proposés pour la grande année par les meilleurs auteurs, et à commencer par Platon, le nombre du cycle précessionnel. Donc je pense qu'il n'y a pas entre grande année et cycle précessionnel une contradiction, ni même une incompatibilité. Je veux dire que sur ce point, je suis un peu en discussion avec mon ami André Barbeau, mais il commence à admettre cette possibilité. Au début, étant un peu agacé, je le comprends très bien et je partage son agacement par ses références pas toujours très documentées et pas toujours très significatives à l'ère du Verseau. Il a estimé que la grande année fournissait une méthode d'astrologie mondiale beaucoup plus intéressante. Je dois dire, enfin, puisqu'on parle de la grande année, je vous le dis, que les travaux de Barbeau le poussaient, bien sûr, à s'intéresser de très près à la grande année, pour une raison extrêmement simple, c'est que André Barbeau s'intéresse depuis 20 ans de manière extrêmement attentive à l'astrologie mondiale, ce qui n'empêche pas de continuer l'astrologie individuel, bien sûr, mais il s'y intéresse beaucoup, il a utilisé un certain nombre de méthodes, mais il a en particulier perfectionné une méthode dont le principe est dû à Gouchon, et qui est, je schématise, qui est la méthode de l'indice de concentration planétaire, c'est-à-dire un indice qui mesure la concentration, la proximité des différentes planètes entre elles et, bien sûr, par rapport au Soleil. Et vous voyez tout de suite, si vous vous rappelez ce que je vous disais de la grande année, qu'il y a entre cet indice de concentration planétaire et Barbeau, il y a une très grande parenté, et vous comprenez pourquoi André Barbeau, s'intéressant à l'indice de concentration planétaire, a été amené à s'intéresser à la grande année, puisque cette grande année évoque une réalité astronomique très proche de celle que l'indice de concentration planétaire s'efforce de déterminer. Ça, donc, si vous voulez, c'est une chose que l'on pourrait envisager d'une manière plus précise. Je voulais simplement vous la signaler maintenant. Et alors, je voudrais, pour terminer, vous parler de l'ère du Verseau, entre guillemets. C'est-à-dire que, quelle que soit votre opinion sur la grande année, mais surtout, quelle que soit votre opinion sur la correspondance entre cycle précessionnel et ère de l'humanité, je crois qu'il faut bien comprendre que l'ère du Verseau, entre guillemets, est une réalité. Et c'est une réalité individuelle, ça a toujours été une réalité individuelle, à toutes les époques et pour tout le monde, et c'est une réalité collective, particulièrement maintenant. Ici, si vous voulez, on va peut-être, je ne dirais pas s'éloigner du réel astronomique, mais accepter que le réel astronomique puisse n'être pas mis en relation avec cette double situation, Bien que personnellement, je sois convaincu que le réel astronomique est en relation avec Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de situation qui n'englobe l'ensemble des êtres. Et je crois que la sympathie est universelle et qu'il y a une correspondance qui est également universelle, une correspondance qui est analogique. Mais même si cette doctrine de l'ère du Verseau doit, du point de vue astronomique, être rejetée, ou même si elle doit simplement être affinée, il est vrai que l'ère du Verseau, pour nous, est toujours proche. Et toujours proche dans le même sens où certains théologiens ont dit que la fin du monde, eh bien, nous sommes tous sûrs de la voir. Et nous sommes tous sûrs de la voir dans relativement peu d'années. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Que ce qui compte, ça n'est pas tellement de se demander à quelle date la fin du monde, au sens habituel, aura lieu, et dans quelles circonstances, mais plutôt de se rendre compte que le monde, effectivement, finira pour chacun d'entre nous dans, au maximum, quelques dizaines d'années. C'est ainsi que on a pu dire que nous sommes chacun, c'est une expression un petit peu pédante, excusez-moi, mais elle est tout à fait frappante, c'est ce qu'on appelle la scatologie, c'est la doctrine des fins dernières, soit des fins dernières collectives, soit des fins dernières individuelles. On a pu dire que chacun d'entre nous est dans une situation eschatologique permanente. C'est-à-dire que nous sommes tous très proches de la fin du monde et que chaque jour nous nous en rapprochons et que nous sommes sûrs de vivre la fin du monde. Et par conséquent, ce qui importe, c'est cette fin du monde là, beaucoup plus qu'une fin du monde qui peut n'être que théorique en ce qui concerne chacun de nous. Je crois que pour l'ère du Verseau, c'est pareil. Je crois que pour l'ère du Verseau, c'est pareil et qu'il y a effectivement une certaine transformation, une certaine adhésion à des valeurs que l'on rapporte habituellement à l'ère du Verseau, et puis on va, si vous voulez, terminer en s'interrogeant là-dessus, et que cette adhésion, ce qui importe d'abord, c'est pour chacun d'entre nous de l'effectuer. Si l'ère du Verseau est aussi proche pour la collectivité humaine, et je le pense, non seulement pour des raisons astronomico-astrologiques, que je vous l'ai dit, j'accepte qu'on mette entre parenthèses, à la fin de cet exposé, mais à cause de beaucoup d'autres signes qui font que, véritablement, nous sentons que nous sommes à la veille de grands bouleversements et qu'après ces grands bouleversements, il y a une autre civilisation qui viendra. Eh bien, si nous souhaitons travailler à l'avènement de cette autre civilisation, et je crois que c'est le devoir de tout homme d'honneur ou toute femme d'honneur actuellement, je crois qu'il n'y a vraiment rien d'autre le plus important, je pense que ce qui est la première condition, c'est de nous situer nous-mêmes déjà dans cette nouvelle civilisation, de vivre nous-mêmes déjà cette nouvelle civilisation. C'est la première condition. Il est évident que, sauf à être marxiste, ce que certes je ne suis pas, il n'est pas question de vouloir, ni même de pouvoir, transformer le monde sans s'être transformé soi-même d'abord. C'est une vérité tout à fait élémentaire. Il n'est pas possible de travailler à l'avènement de l'ère du Verseau, avec tous les guillemets que vous voudrez, sans s'être soi-même rendu, pour ainsi dire, contemporain, déjà, de l'ère du Verseau. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. D'adopter déjà ces valeurs. De toute façon, dirais-je, il y a tout à y gagner pour tout le monde. Pour chacun, en son particulier, et également pour cette civilisation qui doit être préparée. Car c'est ça qui est important. Beaucoup plus que de vivre dans un certain état d'esprit apocalyptique, mais de s'apesantir trop sur les bouleversements qui viendront, qui sont inévitables et qui doivent venir. Dans quelle ampleur, je n'en sais rien. Et je crois que c'est pas ça qui est important. Je crois que c'est beaucoup plus important, c'est de penser à ce qui vient après et de préparer ce qui vient après, de se préparer soi-même et ainsi de se mettre dans une condition où l'on peut, chacun selon ses talents, préparer la civilisation qui effectivement viendra ensuite. Alors, comment se caractérise cette civilisation ? Là, je voudrais vous donner la parole. Quelles sont, à votre avis, les valeurs qui peuvent être dites celles du Verseau ? Vous ne croyez pas que ce sera plutôt un meilleur équilibre entre les deux? C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en commençant, en disant qu'il ne s'agit plus seulement de parler, et surtout pas de parler seul, mais qu'il faudra toujours parler, qu'il faudra toujours réfléchir. Vous savez, je remarquais parmi des groupes qui, au fond, préfiguraient, je crois, assez bien, de manière sauvage, ce que peut être la communauté de l'ère du Verseau. On disait, on l'a dit depuis 68, on s'arrête et on réfléchit. Ce n'était pas une devise bourgeoise, pas du tout.
Je voudrais vous poser une question. Pour le passage entre la fin de l'ère des poissons et le début de l'ère du Verseau, et cette période importante de passage d'une ère à une autre, vous paraît-il utile, voire nécessaire, voire indispensable, qu'un instructeur mondial paraisse, de façon à faire le passage en douceur, entre guillemets?
Bon, je voudrais d'abord vous dire que je pense que ce moment de passage, nous y sommes. Je ne sais pas depuis combien de temps exactement, et je ne sais pas non plus exactement combien de temps ça durera, mais en toute hypothèse, c'est-à-dire sous toutes les réserves que j'ai été obligé de formuler du point de vue astronomique, et même du point de vue historique, nous sommes dans cette époque de passage, si même on admet que nous sommes depuis peu entrés dans l'ère du Verseau, l'influence des poissons se fait encore sentir, et même si nous sommes encore dans l'ère des poissons, l'influence du Verseau se fait déjà sentir, si vous voulez, d'une manière anticipée. J'ai parlé tout à l'heure de Paul Lecour. Paul Lecour considérait que l'ère du Verseau serait marquée et réalisée par le retour du Christ. Ce qui correspondait dans son esprit, même encore plus qu'il n'y paraît, à cette idée d'un instructeur mondial. Je dis plus qu'il n'y paraît, car Paul Lecour avait une idée assez peu orthodoxe, si je puis dire, du Christ. Il considérait que le Christ était le démiurge du système solaire. Paul Lecour, avec un ouvrage, s'appelle « Dieu et les dieux », et il considérait que le Christ était plutôt un dieu que Dieu incarné au sens défini par le Concile de Nicée et du christianisme orthodoxe. Donc, si vous voulez, il y a là, chez Paul Lecour, une idée qui est très proche de la vôtre, puisque, pour lui, l'ère du Verseau correspondait à la venue du Christ en gloire et en majesté. Je vous répondrai personnellement tout à l'heure, mais je crois que c'est intéressant de partir de Paul Lecour dans la mesure où il est à l'origine de cette idée d'ère du Verseau. Il est à remarquer que son successeur, qui est Jacques Darès, qui dirige l'association Atlantis, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mon ami Jacques Darès, est, me semble-t-il, beaucoup moins strict ou beaucoup moins littéral sur cette idée du retour du Christ. Je veux dire que il considère, il reprend tout à fait la doctrine de Paul Lecour sur l'ère du Verseau, mais il admet que cette instruction, que cette venue d'un Messie peut être à entendre autrement que sous une forme personnelle, sous une forme individuelle. C'est un petit peu le cas du messianisme, d'ailleurs, d'une manière plus générale. On a pu se demander si, effectivement, l'attente du Messie pour le peuple juif, par exemple, correspondait à la venue d'un personnage, soit-il, qui serait le Messie, ou s'il ne s'agissait pas d'une vocation particulière du peuple d'Israël. Vraiment. Dans le cas de l'ère du Verseau, c'est effectivement un élargissement, si vous voulez, de cette notion de retour du Christ que l'on assiste dans le cas du successeur de Paul Lecour et, disons, de beaucoup de ses disciples actuels, fussent-ils à titre posthume. Alors, personnellement, je pense, si vous voulez, que le bouleversement est indispensable, je pense que le changement de mentalité est indispensable, je pense qu'il y a des êtres qu'on peut appeler, bien que je n'aime pas le terme, des grands initiés, pourquoi pas, dont l'enseignement est indispensables à étudier et qui nous ont donné des clés, des outils pour l'ère du Verseau. Je ne suis pas certain, là je vous parle tout à fait à titre personnel, je ne suis pas certain que viendra un grand instructeur mondial, encore une fois, sous une forme individuelle. Je pense que cette instruction mondiale doit se faire que des individus destinés à cette tâche, à appeler, si vous voulez, ils ont collaboré, ils collaborent, ils contribueront. Je ne suis pas sûr que le grand instructeur mondial doit venir, tout en admettant que c'est parfaitement possible. Enfin, si vous voulez, mais je n'en suis pas certain. Qu'en pensez-vous, vous-même ? Si je peux me permettre de...
Je vous posais une question pour savoir ce que vous en pensiez, vous.
Bien.
Voilà. J'aurai l'occasion certainement de poser à d'autres personnes, à d'autres conférenciers, pour avoir des avis différents et émanant de personnalités différentes.
Je n'ai pas de certitude à cet égard. Disons, je n'ai pas d'opinion précise à cet égard, si vous voulez. Je n'exclus pas cette possibilité, mais je ne vois pas non plus une nécessité évidente.
Initiative, oui. Quelles que soient les formes aujourd'hui.
Oui.
Alors au fond, il pourrait s'agir de l'éclosion, en parlant du poisson, de Christ en soi, en somme, de la lumière, de la reconnaissance de la lumière en soi-même.
Oui, oui, oui. Moi, je le crois tout à fait, et c'est pourquoi j'avais inscrit ère du Verseau entre guillemets, si vous voulez, pour bien marquer que, en prenant un petit peu de distance par rapport aux problèmes à la fois d'histoire et d'astronomie, il y a effectivement tous les signes qu'une nouvelle ère va s'ouvrir, et que, en effet, cette recherche de la voie initiatique en est un signe. Mais aussi, je crois voir un signe dans toutes les confusions, dans toutes les illusions qui séduisent beaucoup de personnes. Je veux dire que cette quête de l'initiation manifeste souvent une grande confusion du psychique et du spirituel, par exemple. Et ça, je crois que c'est vraiment le grand danger. Enfin, et je ne crois pas qu'on sorte du sujet, si vous voulez, parce que je pense que l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'esprit. Enfin, on pourrait là se rattacher à d'autres doctrines. Après l'ère du Fils, c'est l'ère de l'esprit. Enfin, c'est pas l'ère du psychique. Ça, je crois que c'est vraiment tout à fait fondamental et que on trouve énormément de groupes qui promettent, grâce à des méthodes, à des techniques physiologiques ou psychologiques, presque des caricatures, en tout cas des ombres, au mieux, de ce que peuvent être des réalités spirituelles. Ça, je crois que c'est vraiment tout à fait fondamental. Tout doit être orienté à l'esprit. Y compris, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme. Il s'agit d'orienter vers l'esprit aussi bien le physique que le physiologique que le psychique. Aussi bien... Pardon ? Non, mais je vous en prie.
Je voulais dire que ce n'était pas forcément exclusif l'un et l'autre.
Non seulement ce n'est pas exclusif, mais je pense, si vous voulez, que... Le psychophysiologique, aussi bien ce qu'on appelle depuis longtemps, d'ailleurs Mauss s'appelait déjà les techniques du corps, si vous voulez, que des exercices psychiques doivent être utilisés pour aider à la réalisation de l'esprit. Car effectivement, c'est je crois la grande différence, si vous voulez, entre bon ce qu'on pourrait appeler un platonisme chrétien et le platonisme de Platon, c'est que le corps n'est pas un tombeau, enfin, mais qu'au contraire, plus l'esprit se divinise, plus en revenant, il confère quelque chose de sa qualité divine au psychisme et au corps, et ce corps et ce psychisme eux-mêmes doivent être mis au service de l'esprit, c'est-à-dire faire place à l'esprit, c'est finalement le plus grand service qu'ils peuvent rendre, c'est de faire place à l'esprit, c'est de permettre à l'esprit de se manifester, puisque l'esprit est là, l'esprit n'a pas besoin de venir d'en haut, si vous voulez, ou sinon par métaphore, mais l'esprit est déjà là, et le soleil est là, et il brille déjà, il faut tirer le rideau, et ça c'est par des méthodes, par des techniques orientées vers l'esprit. Sinon, on tombe dans la grande confusion. Et ça c'est très grave. D'autant plus grave qu'il n'y a aucun moyen. C'est un très grand piège, si vous voulez. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du père Evgraph. Père Evgraph, qui était un théologien orthodoxe, qui est mort il y a quelques années, qui est certainement l'un des très grands théologiens de notre temps, était russe d'origine, il a vécu en France. Père Evgraph avait des formules tout à fait admirables. Il y en a une qui me vient juste à l'esprit en vous parlant ainsi, et je vous la livre. Il disait que la grande force du diable, sa grande ruse, c'est de tromper sans mentir. Est extrêmement profond. La grande habileté, la grande force, la grande ruse du diable, c'est de tromper sans mentir. Je pense qu'il faut toujours se rappeler cela lorsqu'on parle du psychique et du spirituel. Car le psychique doit être utilisé et doit lui-même bénéficier de cette quête de l'esprit, de cette ouverture à l'esprit. Il doit la favoriser et il en profite lui-même. Mais il n'y a aucun moyen de distinguer le psychique et le spirituel sinon par un certain goût lui-même spirituel. Je veux dire que c'est beaucoup plus de l'ordre du goût que de l'ordre de la définition logique. C'est également de l'ordre des fruits d'un arbre. D'après quoi l'on juge l'arbre. Je veux dire que le psychique est instable. Et finalement, le psychique est inquiétant. Sauf bien sûr s'il est spiritualisé et s'il est relié à l'esprit, orienté d'abord, relié ensuite à l'esprit. Alors que le spirituel est stable et paisible et que les fruits de l'esprit, du spirituel, sont des fruits de douceur, sont des fruits de paix. Les fruits du psychisme sont des fruits d'inquiétude. Je crois que c'est probablement la pierre de touche. Mais c'est une question d'appréciation. Beaucoup plus qu'une question de jugement. De toute façon, ce n'est pas tellement la qualification théorique qui importe, c'est d'être orienté à l'esprit. Ce n'est pas tellement de se demander est-ce que cette impression est psychique ou spirituelle. Si on est orienté à l'esprit, le problème restera théorique et finalement n'aura pas besoin d'être vraiment résolu. Il ne se posera même pas. J'allais dire, il y aura mieux à faire et mieux à penser. Mais je crois que c'est ça qui est fondamental. Et je suis très content qu'au fond, on termine la soirée sur ce mot d'esprit, parce que l'air du Verseau, en liaison ou non avec le ciel physique, l'air du Verseau pour chacun de nous, l'air du Verseau pour l'humanité, c'est l'avenue de l'esprit. C'est l'esprit qui règne, c'est de faire place à l'esprit.